Ve'odzot. Donc là, en fait, on va continuer dans la même lignée de ce qu'on a expliqué la semaine dernière. On n'a fait que commencer. Et ça tombe bien, puisque la paracha de la semaine dernière, ça a parlé des lois de la cacheroute. Et justement, dans le cours de la semaine dernière, on a commencé à expliquer qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'un aliment est kasher et quand on dit qu'un aliment est non kasher. Donc rapidement, ce qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est que kasher, en hébreu, ça veut dire apte. Assour, ça veut dire quoi? Ça veut dire enchaîné. Et donc on a expliqué quel rapport entre assour et enchaîné.
Tu veux un blanc?
On a expliqué ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, un aliment qui est interdit, même si une personne va avoir les kavanotes qu'il veut, ça changera rien. Cet aliment est, comme on a dit, enchaîné, ça veut dire qu'il peut pas décoller. Il n'y a rien à faire. Ça veut dire, on pourrait imaginer ça, comme si vous avez par exemple une fusée avec un gros moteur, qui peut décoller, je peux aller jusqu'à où tu veux, mais qui est clouée au sol. Elle est vissée, elle est clouée au sol. Donc t'as beau envoyer les réacteurs, t'as beau accélérer, si tu vas accélérer à fond, tu vas tout casser. Si on la dévisse pas, si on la déboulonne pas et on s'assure pas qu'elle puisse décoller, on va tout casser. Donc c'est la même chose. Il y a des choses qui ne sont pas conçues pour décoller aujourd'hui. Notamment, les choses interdites. Il y a de l'énergie dedans. S'il y a de l'énergie, c'est que forcément on peut faire quelque chose. Parce que dans le monde, il n'y a pas de mal absolu. Chaque chose peut être utilisée en bien et en mal. C'est une grande rambasse qu'il faut retenir ça. Le mal absolu dans la Torah n'existe pas. Ça n'existe pas. Chaque chose qui est autour de moi, ça peut être du bien, ça peut être du mal. Et même ce que je pense être le mal, c'est parce qu'aujourd'hui c'est du mal. On sait bien que ça nous est arrivé à tous, que des fois il y a des gens, d'accord? Des fois il y a des gens, tu dis celui-là, oh, c'est pas un ennemi, mais celui-là c'est quelqu'un qui te fait du mal. Et des fois on dit que c'est justement ces gens-là qui vont devenir les plus grands amis. Parce que le mal absolu n'existe pas, ça n'existe pas. Ça peut être l'inverse. Bien sûr, ça peut être l'inverse. 100%. D'accord? Pourquoi? Parce que, la question, c'est que, il n'y a pas de mal absolu, il n'y a pas de bien absolu. La question, c'est qu'est-ce que moi, je vais en faire? Alors, c'est de la même manière. Quand la Torah me dit que quelque chose est assour, évidemment que c'est assour, évidemment que moi, j'ai pas le droit de le faire. Mais le fait que moi, j'ai pas le droit de le faire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun bien à tirer dedans. Chas v'shalom de dire des choses comme ça. Parce que tout ce que Dieu a créé, il y a quelque chose à tirer de ça. Sinon, Dieu ne l'aurait pas créé. Chaque chose que Dieu a créé, il y a du bien. Seulement quoi? Il y a du bien qui est accessible, il y a du bien qui n'est pas accessible. Des choses qui sont permises, des choses qui sont interdites.
Enfin, il a créé une mitraillette pour me tuer, c'est du bien.
Je vais vous donner un exemple. C'est comme une fois, il y a un enfant, d'accord? C'est comme une fois, il y a un enfant qui était chez le rabbi, chez notre rabbi, en Yéhidout, en notre vue privée avec ses parents. Et à cette époque-là, on parlait beaucoup de la bombe atomique. Vous savez, c'était dans les années 60, comme ça, on parlait beaucoup de la bombe atomique, et la bombe atomique, et la bombe atomique. Et c'est un enfant qui a appris ça à l'école, il y a un professeur qui lui a parlé. Et ça l'a beaucoup choqué, il avait très peur. Il dit, mais vous imaginez, la bombe atomique, ça peut tout faire sauter, ça peut tout exploser, etc. Et la bombe atomique, et la bombe atomique, et la bombe atomique. Et apparemment, il en était traumatisé. Parce que c'est vrai, la bombe atomique, ça peut tout faire sauter. Alors, une fois, il est parti avec son père, en entrevue privée chez le rabbi. Et son père a raconté ça au rabbi, il a dit, écoutez, voilà mon fils, on a un problème, il en fait des cauchemars et tout, il n'arrive pas. Alors, le rabbi a demandé à son père de sortir. Il est resté avec le petit enfant seul dans la pièce. Et c'est l'enfant qui a raconté des années plus tard. Il a dit, vous savez ce qu'il m'a dit le rabbi? Il m'a dit, c'est très simple. Il m'a dit, tu vois, dans la cuisine de ta maman, il y a un couteau. Avec ce couteau, elle fait des très bonnes choses. Elle fait des bons plats que tu aimes. Mais avec ce couteau, on peut aussi tuer des gens. Il a dit, tu vois, ta maman dans la cuisine, elle va utiliser le feu. Parce que sans feu, on peut pas cuisiner. Avec le feu, on va faire aussi l'électricité. Grâce à ça, il y a de la lumière. Mais avec ce feu, ça peut aussi brûler une maison. Il a dit, retiens cette chose-là. Chaque chose qu'il y a dans le monde, on peut en faire un bon usage, on peut en faire un mauvais usage. Pour ta question des atomes, bien sûr qu'avec l'atome, on peut faire une bombe atomique, c'est évident. Mais avec l'atome, quand on sait le maîtriser, on peut faire des centrales nucléaires qui vont nous faire de l'électricité, qui vont nous faire, enfin, je sais pas les utilisations qu'il y avait à l'époque, aux années 60. Mais on savait déjà faire de l'électricité avec ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bien absolu et le mal absolu n'existent pas. Vous voyez ce que je veux dire? La question, c'est qu'est-ce que moi je vais en faire et qu'est-ce que les hommes ont décidé d'en faire? Les hommes n'arrêtent pas de parler à Ahmadinejad, la bombe atomique. L'atome en soi, c'est quelque chose de bien. Quand on arrive à le maîtriser, c'est extraordinaire. L'atome, c'est la base de la vie.
Ouais, mais ça dépend entre les mains de qui il est.
Voilà, exactement. Donc ça dépend quelle utilisation les hommes vont décider d'en faire. Ça, là, c'est la question. C'est comme le couteau. Voilà. Alors pareil, il y a des choses que nous, dans l'état actuel des choses, ça nous a l'air quelque chose de mauvais.
Il a créé le remède avant la maladie.
Voilà. Parce que dans l'état actuel des choses, tel que nous on le perçoit, ça nous a l'air mauvais. Mais un jour, Dieu nous montrera qu'il n'y avait que du bien, parce qu'il n'y a que du bien qui vient de Dieu. Mais dans l'état actuel, c'est à source. Dans l'état actuel, on ne comprend pas.
Il y en a une d'ouverte.
Moi, j'ai trouvé cette réponse du rabbi très intéressante. Et souvent les enfants, par exemple, ils ont, des fois, ils peuvent avoir peur du feu, peur de telles choses comme ça. Et quand on leur explique ça, que chaque chose dans le monde, on peut faire du bien avec ça, on peut faire du mal avec ça, c'est quelque chose que les enfants adhèrent beaucoup à ça, parce qu'ils comprennent ça. Ils voient ça. Tu lui montres un jouet, par exemple. Tu dis, voilà, avec le jouet, tu peux jouer avec. Avec le jouet, tu peux taper quelqu'un avec. Comment chaque chose? Avec le bâton de la cuisine, on peut faire la cuisine, on peut taper aussi, on peut faire n'importe quoi. Ok. Donc pourquoi je parle de tout ça maintenant? Parce qu'on a expliqué qu'en vérité, il n'y a pas de choses qui sont le mal absolu, ça n'existe pas. Il y a le bien, et il y a du bien qui n'est pas encore accessible, qu'on appelle aujourd'hui le mal. Et c'est pour ça qu'on l'appelle assour. On ne l'appelle pas ra. La Torah ne dit pas que le cochon c'est mauvais. La Torah dit que le cochon c'est assour. Assour ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est inaccessible. C'est interdit, c'est bloqué. Donc c'est inaccessible. C'est comme une femme interdite. On n'est pas en train de dire qu'elle n'est pas bien, on dit qu'elle est interdite. Elle est bien pour celui à qui elle appartient, mais pour moi elle n'est pas bien. D'accord? Ok. Alors maintenant il dit ici, maintenant il va aller un peu plus loin, il va pousser un peu plus loin cette logique. On va attendre David, ça c'est David. Ça, c'est
Mérida David.
Il va pousser maintenant un peu plus loin cette logique.
Heureusement qu'il n'a pas
ouvert. Il dit, imaginez une personne qui a mangé pas cachère, sans faire exprès. Comment c'est possible? Par exemple, il a acheté un produit sans faire exprès. En fait, le produit n'était pas cachère. Ou bien, il a acheté une viande dans une boucherie cachère. Et il y a un communiqué qui part quelques jours plus tard et qui dit qu'en fait, ben voilà, la viande n'était pas cachère. Bien sûr, c'est déjà arrivé. Le bonhomme, il a mangé de la viande. Dans un repas de Shabbat.
Ah ouais.
Il a fait une bracha dessus. Bracha avant, bracha après. Il a pris la force de cette viande pour servir à Kadosh Baruch Hu. Pas possible, il s'est passé quelque chose. D'accord.
Bah, le fait qu'il a cru que c'était de la bonne viande,
alors, c'est ce qu'il va dire ici.
C'est de la bonne viande.
Ve'odzot, Perekret, chapitre 8. Ve'odzot. Tout ce que je vous expliquais, c'est juste une introduction pour développer ce qu'il va dire maintenant. Ve'odzot, ma'achalot asurot. Encore un autre point qu'il y a dans les aliments interdits. Mis à part ce qu'on a expliqué, que quand c'est permis, ça veut dire que c'est accessible. Quand c'est interdit, ça veut dire que c'est inaccessible. Un deuxième point qu'il faut rajouter, c'est quoi? Chez les kach, nikraim, bechem, isour. Que c'est pour ça qu'on les appelle avec le nom de isour, ça veut dire interdit, donc ça veut dire enchaîné. Mipne. Parce que. Chez mi, shachal, ma'achal, isour, belo, oda. Même celui qui a mangé un aliment interdit, sans le savoir. Les Sham Shamaïm, il a fait pour Dieu, comme on a dit par exemple dans un repas de Shabbat. La Avod Hashem, Bekorach Ilahi. Il a fait dans le but de servir Dieu, les Rvod Shabbat Kodesh, par exemple. Vegam Pal Ve'asaken. Et effectivement, il a mangé cette viande dans l'esprit de servir Dieu, et effectivement, grâce à cette viande, il a servi Dieu. Il a mangé un bon repas de viande le Shabbat, après il a pris les forces, il est parti à un bon cours de Torah. Vegam Pal Ve'asaken. Vekara, il a lu la Torah. Veit palel, il a prié, bekoar achila ahi, par la force de cette nourriture. Ça veut dire, attends, c'est pas possible, Dieu, il va faire quelque chose. Il a pas fait exprès. En plus, il a fait pour Dieu. En plus, il a dit qu'il allait le faire pour Dieu, et il l'a fait pour Dieu. La totale. Qu'est-ce qui manquait? Il manquait juste comment, au lieu que l'objet, il soit cachère, et au lieu qu'il vient de chez, d'accord, comment il s'appelle l'autre, le boucher cachère, là?
Krief.
Il vient de chez
Pascal.
D'accord? Pascal? Roger? Ça va? Bovin? Ça va? On peut pas, Dieu, il peut faire quelque chose? C'est frustrant. D'accord? Bah, exactement. Va expliquer ça. En plus, il a pas fait exprès. Il l'a fait pour Dieu. Il a fait la bracha avant, la bracha après. Il a fait pour un kadosh barouh. Il a tout fait. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, bien sûr que cette personne-là, lorsqu'il arrivera en haut après 120 ans, évidemment, il ne le dit pas ici, mais c'est évident, que lorsqu'il arrivera après 120 ans, bien sûr qu'il aura des circonstances atténuantes, et on lui dira, on t'excuse, il n'y a pas de problème, etc. Mais c'est pas ça la question. La question est l'énergie de cet aliment. Est-ce qu'elle a été récupérée pour la kedusha ou pas? Réponse. Puisqu'on a dit qu'il est assour, c'est assour. Assour, ça veut dire quoi? C'est pas c'est interdit. Si on avait traduit assour par interdit, Alors, chaque chose qui est interdit, chaque interdit a sa dérogation. On est d'accord? C'est comme ça. Chaque loi qui est interdite, il y a une dérogation. Il y a une certaine souplesse. C'est-à-dire qu'il y a un interdit, mais si vraiment c'est un cas comme ça, qu'on a fait sans faire exprès, etc., eh ben, la loi fera une dérogation. C'est pour ça qu'il explique qu'ici, en vérité, la traduction de assour par interdit, c'est une mauvaise traduction. Parce que chaque interdit a des dérogations. Alors qu'une chose qui est enchaînée, il n'y a pas de dérogation. Le bonhomme, il avait le frein à main qui était levé, il a accéléré. Il n'a pas fait exprès, il voulait bien faire. Mais c'est fini, il a tué son frein à main. Il voulait bien faire, qu'est-ce que ça change? Elle était bloquée, ta voiture, tu l'as cassée.
Je ne sais pas conduire.
D'accord? Voilà. Voilà. Non, mais il avait un tellement gros moteur, il a accéléré, pfff, elle est partie. Après, il peut freiner, hop, ça va se... D'accord? Tu comprends? Bien sûr. Après, tu sens brûler, tu comprends pas pourquoi. Alors.
Mandy, une question, s'il te plaît.
Tu dis à l'avancement aujourd'hui.
On sait qu'il y a des médicaments qui peuvent contenir des produits interdits.
Oui.
Des médicaments qui peuvent contenir des substances interdites.
Bien sûr.
Dans ce cas de figure, comment on considère la chose?
Bonne question. Dans ce cas de figure, on considère que si la Torah me l'a permis, ça veut dire qu'il n'est plus interdit. Si la Torah me l'a permis. Mais c'est sûr, ça. Si la Torah me l'a permis, tant qu'il n'est plus interdit.
Mais concrètement.
Je te donne un exemple. Je te donne un exemple, je vais simplifier. Je vais simplifier l'exemple. Imaginez qu'une personne, par exemple, c'est une grande marloquette, ça, mais je vais te dire, a priori, un des avis qu'on retient. Imaginons une personne qui tombe malade Shabbat. Et qu'on doit appeler l'ambulance. Comme on a eu un cas une fois ici, ça fait quelques, d'accord? Dans ce cas-là, le Hatam Sofer dit que le respect du Shabbat, c'est d'appeler l'ambulance. Vous me suivez? On n'a pas enfreint le Shabbat.
Au contraire.
C'est le respect du Shabbat a changé. Avant, le respect du Shabbat, c'était de ne pas appeler l'ambulance. Mais quand cette personne est tombée malade, maintenant, le respect du Shabbat, c'est d'appeler l'ambulance. Donc, je n'ai pas enfreint le Shabbat. C'est-à-dire qu'à l'époque du Beit Hamikdash, j'aurais pas mené de sacrifice, etc. C'est pas considéré comme quelque chose. Parce que là, la Torah me l'a permis. Là, je parle d'un cas que la Torah n'a pas permis, mais que j'ai mangé sans faire exprès. On est d'accord?
Pour l'exemple, j'ai bien compris. Voilà. Mais je veux dire que de façon, je dirais, quasi consciente, on va prendre un médicament qui contient une substance interdite.
Oui, donc, comme du Hametz, etc.
Comment ça va être assimilé par le corps et comment on va parler de cette énergie-là dans l'exemple que tu donnes?
C'est une bonne question. Si la Torah me le permet, c'est que pour moi, je dois plus me préoccuper de ça. C'est la Torah qui décide ce qui est bon, ce qui est pas bon.
Donc tu te poses pas la question de savoir comment est transformée cette énergie.
Je me pose pas la question.
Libérée, pas libérée, est-ce qu'elle monte?
Si la Torah me l'a permis, c'est qu'elle est libérable. Bon. C'est tout.
D'accord.
Voilà, donc j'y touche plus.
Dans la capacité précise de changer le statut de Shabbat, c'est comme ça s'est passé, ce rabbin le faire ou n'importe qui peut le faire?
C'est le rabbin qui doit le faire pour montrer l'exemple. Pour pas que les gens disent, le rabbin voulait pas le faire, ça veut dire que. Pour ça, vous rappelez quand il y a musiquette, moi-même je suis parti appeler. C'est écrit comme ça. Parce que
Je vais demander au.
Moi je suis parti appeler.
C'est comme ça qu'il faut faire, c'est ça.
Non,
la force.
Pardon.
T'as compris?
Après, pour rappeler.
C'est pour montrer que c'est ça qu'il faut faire quand il le fait lui.
Pour accrocher après, comme pour accrocher, il n'y avait pas besoin de moi pour accrocher, j'ai demandé au noir qui était à la base de raccrocher. Je lui ai dit de rester à côté du téléphone, décrocher s'il le faut. Mais pour le premier coup, c'est moi qui ai fait. C'est évident. Il faut le plus rapidement possible, il faut montrer l'exemple. Mais bon, on refait la parenthèse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne-là, même si il a fait les Shem Shamaim, il a fait pour Akadosh Baruch Hu, étant donné que Assour ne veut pas dire interdit, que là, si Assour voulait dire interdit, on aurait pu avoir des dérogations. Assour ne veut pas dire interdit. Assour veut dire bloqué, enchaîné. Donc s'il est enchaîné, même si la personne il a fait les Shem Shamaim, même s'il savait pas, ça change pas. C'était enchaîné, c'est enchaîné. Ça décolle pas, c'est fini. Il y a rien à faire. Qui dit ici, En achayut sheba, la vitalité qu'il y a dans ce morceau, dans cet aliment que j'ai mangé, sans kavana. D'accord? Vous voulez un tanya, monsieur Cohen?
Non, je...
D'accord? Eh ben, il nous dit ici, En achayut sheba, ola umitlabeshet betevot a Torah vatfila. Même si j'ai fait des mots de Torah et de tfila, ça ne pourra jamais monter chez Akadosh Baruch Hu, cette vitalité, grâce aux mots de la Torah et de la tfila que j'ai fait, kemo ha-eter, comme si c'était quelque chose de permis. Pourquoi? Mipne, Isura bidé asitra achara michalosh kilpot atmeot, à cause du fait que cet aliment est emprisonné et bloqué dans la sitra achara, ça veut dire quoi? Dans les trois forces qui sont impures. Va filou isur de rabanan! Maintenant écoutez ce cas. Imaginons maintenant un cas que l'interdit est un interdit qui est, entre guillemets, que des rabbins. Exemple. Vous savez que le poulet mélangé avec du lait, C'est assourd par les Chachamim.
Les Rabbanan.
C'est pas la Torah. C'est pas la Torah. C'est interdit, on n'a pas le droit de le faire. Mais c'est assourd des Chachamim. Pourquoi? Dans la Torah, de quoi on parle? On parle de l'interdiction de cuire de la viande avec du lait.
Pas de la volaille.
Or, la volaille n'est pas de la viande. On est bien d'accord. Quand vous allez à la boucherie, du poulet et de la viande, c'est pas la même chose. C'est pas le même prix, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Et bien, de la même manière, Minatora, l'interdit, c'est quoi? L'interdit, c'est la viande. Mais les Rachamim ont interdit, peu importe les raisons, je rentre pas dedans, les Rachamim ont interdit le poulet. Donc si maintenant une personne, écoutez ce cas, je vais faire le même cas qu'avant, mais là, au lieu que ce soit un interdit de la Torah, c'est un interdit des Rachamim. Le bonhomme, il a mangé un morceau de poulet, l'Irvot Shabbat Kodesh. Il ne savait pas qu'en vérité, ce morceau de poulet, avant qu'il le mange, il y avait eu le petit qui avait pris le biberon et pac, il l'a mis dans la dafina. Et que c'était pas battel péchichim, il n'y a pas 60 fois plus. Donc, c'était clair que c'est pas cachère, mais c'est du poulet. Alors, qu'est-ce que t'as envie? Tu veux dire, attends. Il l'a fait, les Shem Shamaï. Il ne savait même pas. Il l'a fait pour prendre des forces pour servir à Kadosh Baruch Hu. Il a servi à Kadosh Baruch Hu. En plus, l'interdit est un interdit des rabbins. Ça va, on peut faire quelque chose, là.
Dans ce cas, oui.
On peut faire quelque chose. Eh ben, non. Il n'y a rien à faire.
Le mec, il a
parce que même si c'est un interdit des Chachamim, un interdit, ça veut dire que c'est bloqué. C'est comme ça. Peu importe qui l'a bloqué, même si c'est les Chachamim qui ont décidé de le bloquer, au contraire, les choses des Chachamim, dans plusieurs cas, ils sont plus graves que les choses de la Torah. Il y a plus de limites et plus de barrières. C'est interdit, c'est c'est pas que c'est interdit, ça ne décolle pas, c'est incompatible, ça marche pas. C'est comme ça.
Ça veut dire que ça aurait pu décoller d'une certaine manière.
Non.
L'intervention des Rabbanim a fait que ça ne
décolle ça ne peut, pas. Exactement, ça ne peut pas décoller. C'est comme par exemple, tu prends quelque chose, d'accord, qui peut supporter que du 12 volts. Et tu le branches sans faire exprès dans du 220 volts. Ah, j'ai pas fait exprès. Tu l'exploses. Que ça change. Ça va rien changer. L'objet, tu vas le tuer. Ça change rien. C'est la même chose. L'inverse aussi. Même si c'est les Shem Shamaim, ça change rien. Ça marche pas.
Pourtant, aussi.
Ça veut dire qu'à partir du moment où le bébé il a aspergé le poulet.
Eh ben ça y est, c'est assourd. C'est fini. C'est du assourd.
Assourd. Il n'est pas du interdit.
L'objet est assourd. Et vous savez combien de fois ça peut arriver des choses qu'on mange, des choses interdites sans même se rendre compte?
Mais il était cachère à la base quand il a acheté le monsieur.
Oui, mais maintenant il est devenu assourd. Allez, le chaim. On va servir le chaim à tout le monde. Allez, David. La casquette, l'on dirait un artiste. Voilà.
Heureusement qu'il est venu. Comme on n'avait pas la peau.
David Ovitchi.
Je me mets dans la peau du personnage. Hein.
Ah ouais, il faut faire le pizzaiolo. Hein.
Merci. Allez, tout le monde est servi?
Demain, on va essayer d'inaugurer.
Allez, messieurs, envoyez. Oui, le reste. Mazel Tov, Shabbat Shalom.
Ah, demain, ça y est?
Demain, 20h.
Alors, ça veut. Ah, c'est bien. Ça y est, tout est prêt, tout est fini, ça y est?
Allez. Messieurs, le Chaim. Tout le monde a eu?
David.
J'ai pas osé lui dire.
Mais il l'a dit.
Il l'a dit.
David, un peu de gasoil. Un peu de gasoil pour les jeunes.
Pardon ? Allez. Le Chaim. Comme il n'y a rien de mieux qu'une histoire pour illustrer ce genre de choses. Je vais vous raconter une histoire. Une fois, chez l'Admour Hazaken, auteur du Tanya, il y a eu un chassid qui est venu le voir. Et ce chassid, il est venu le voir, il a dit, je viens vous voir, est-ce que je peux venir vous voir avec mon gendre? Bon, c'est quoi le problème? Il a dit, mon gendre se plaint dernièrement, qu'il a des doutes dans la Emouna. Il se pose des questions, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu n'est pas là? Et ça l'intrigue beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est né dans une famille religieuse, quelqu'un qui est né dans une famille cachère. Et il comprend pas pourquoi tout d'un coup il se pose ce genre de questions. Alors l'Admour Hazaken a dit, bien sûr, viens avec lui, il n'y a pas de problème. Alors il est venu, le gendre est venu avec donc le chassid. Et alors l'Admour Hazaken, dès qu'il arrive, le gendre, l'Admour Hazaken lui pose la question, il dit, racontez-moi ce qui vous arrive. Il lui dit, écoutez, je sais pas, ça fait quelques semaines, je sais pas, je fais des rêves bizarres dans la journée, je me mets tout d'un coup à réfléchir, est-ce qu'il y a Dieu, est-ce qu'il n'y a pas Dieu, des questions bizarres, des choses, je comprends pas pourquoi. Jamais j'ai eu des pensées comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? L'Admour Hazaken lui a dit, il faut que tu vérifies ton régime alimentaire. Il faut que tu vérifies ce qui s'est passé d'abord dans ton régime alimentaire et ce qui s'est passé dans les semaines qui sont arrivées. Probablement, que tu as consommé un aliment pas cachère, et c'est écrit dans le Zohar que quand on consomme un aliment, quand on mange un aliment pas cachère, ça amène des doutes dans la Emouna. Et effectivement, la suite de l'histoire, c'est que, c'est qu'il a, fait une enquête, et en fait, chez lui à la maison, il y avait donc sa femme, se faisait aider par une bonne, et la bonne, malheureusement, elle avait mélangé des choses, elle avait pas dit, d'accord? Et suite à ça, il a eu des sphécodes dans la Emouna. Plein d'histoires comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est écrit clairement dans Shulchan Aruch que manger pas cachère, ça mène des doutes dans la Emouna, des sphécodes dans la Emouna. Il a montré comment c'est écrit
en Shulchan. Tu peux réparer ça ou pas?
Bien sûr, tout on peut réparer, mais ça fait des traces. Pourquoi? Ça, c'est exactement ce qu'on est en train de dire ici. Le pauvre ce bonhomme, le gendre, c'était un Talmid Racham. C'était un homme qui étudiait la Torah toute la journée. Il étudiait la Torah toute la journée, il était financé par son beau-père. Son beau-père lui payait, et lui il était au collège. Attends, doucement. Il était au collège, il étudiait toute la journée. C'est pour ça qu'il comprenait pas, il dit, mais je comprends pas. Je fréquente personne de bizarre, j'étudie la Torah toute la journée, j'ai des questions comme ça. Et là, Claude Morazaken lui a dit, tu l'as mangé sans faire exprès quelque chose de pas cachère. Ça veut dire que là, encore une fois, ça confirme ce qu'on vient d'expliquer ici. Que sur ça, peu importe la kavana, quand on mange quelque chose de pas cachère, ça laisse des traces. C'est pour ça que le rabbi insistait beaucoup. Que même si pour les enfants, dans la halakha, on est moins regardant pour manger cachère que pour les adultes, la halakha est moins regardante pour les enfants, mais concrètement, dans la pratique, on devrait être plus regardant pour les enfants que pour les adultes. Parce qu'on sait, que pour les enfants, il n'y a rien de pire qu'un enfant qui ait les doutes est-ce que Kadosh Baruch Hu existe et de rester comme ça toute sa vie. Et il n'y a rien, il n'y a pas un plus bel héritage qu'on peut donner à nos enfants que l'enfant, directement, c'est inné, il croit en Dieu et pour lui, c'est quelque chose d'acquis. Donc, il n'y a rien de plus beau que ça. Et c'est pour ça que le rabbi insistait beaucoup. Il dit qu'une des choses sur lesquelles c'est écrit que ça peut amener des doutes dans la Emouna, ou du moins, ça peut aider à la Emouna, c'est prendre du lait chamour. C'est écrit clairement dans le Rama, dans Shulchan Aruch, c'est écrit que prendre du lait chamour, c'est pas sûr de prendre du lait dans chamour, mais c'est écrit que prendre du lait chamour, c'est bon pour la Neshama. C'est bon pour la Neshama et c'est bon pour la Neshama. Et le rabbi disait comme ça, il disait même s'il y a des gens, il parlait à des parents, il disait même s'il y a des parents qui font pas attention pour eux parce que bon, ils estiment qu'ils sont pas au niveau, mais s'ils peuvent faire attention pour leurs enfants, d'essayer d'avoir du lait chamour, ça coûte pas cher, je n'en peux acheter.
C'est particulier le chamour.
Il a été. Je peux pas vous l'expliquer. Il n'y a pas de relation de cause à effet que je peux vous expliquer. Mais c'est une réalité qu'il y a des choses qui font que il y a des choses qui font qu'il y a pas qu'il y a moins de doute dans la Emouna. Ça c'est la cacheroute. Exactement ce que je viens de dire ici. Peu importe la kavana, pas la kavana, peu importe qu'il a fait exprès ou pas exprès.
Mais alors un bébé qui s'est fait, qui a été allaité par exemple par une non-juive.
Oui.
Alors, il a mangé.
Eh bien, vous savez, il y a un rabbi qui a raconté une fois, l'élève.
Non, justement.
C'est ça l'histoire de Moshe. Moshe, il a refusé. Justement, il y a une histoire d'un. Le Rav Stenzel, dans son livre, dans son commentaire sur ce Perek du Tanya, il raconte l'histoire d'un grand rabbi qui était un. Alors, j'ai oublié son nom, mais je me rappelle que c'était l'élève d'un élève du Baal Shem Tov. Donc, ça fait quand même assez pas mal de temps. Et il a raconté, il a dit que toute sa vie, il faisait teshuva. Pourquoi? Parce que sa mère, quand il était petit, une fois sa mère était malade. Elle n'était pas en état d'allaiter le petit. Alors vous savez comment c'était à l'époque, quand la mère n'était pas en état d'allaiter le petit, on donnait à une femme qui allaitait.
Ouais. Ouais.
Et malheureusement, la seule personne qu'on a pu trouver, c'était une goya. C'était la seule personne dans le petit village, tout ce qu'on a pu trouver. Donc on n'a pas le choix. L'enfant, il doit manger, donc évidemment, on lui donne. Et bien, ce tzadik là, il était déjà très âgé. Il a dit, ça fait des années que je suis en train de me travailler pour purifier mon corps de ça, et j'ai pas encore fini, et je terminerai jamais. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il en veut à sa mère? Non, parce que bon, il n'y a pas le choix. Ouais. Alors, ça répond un peu à ta question, Zadane, tout à l'heure. Hein. Ouais.
Ça veut dire que c'est foutu, quoi, si on a...
Non, c'est pas foutu. Bon, écoutez, on fait ce qu'on peut. Non, attends. Il faut bien comprendre quelque chose. Je suis pas en train de dire qu'on sera puni pour ça. Il faut bien comprendre ça. Beaucoup de gens aujourd'hui, c'est pour ça qu'on l'avait précisé quand on avait commencé le Tanya. Beaucoup de gens, quand ils lisent la Torah, ils rentrent tous dans une conception de... Est-ce que je serais puni pour ça ou je serais pas puni pour ça? Gan Eden ou Gehinnom? C'est pas la question là. Bien sûr que je serais pas puni pour ça, c'est pas de sa faute.
C'est une punition, mais c'est par rapport à la Emouna. Quand après tu te trouves devant une épreuve et tu sens que tu peux manquer de Emouna.
Il faut améliorer la cache-route.
Non, mais est-ce que le. Oui, d'accord, il faut améliorer la cache-route, j'ai compris. Mais si. Si tu dis que ce tzaddik là, parce qu'il a été allaité, il a pas réussi à réparer des années après.
J'ai lu beaucoup de lettres du rabbi.
Moi je parle pour moi, c'est pas l'allaitement. Moi, c'est bien après que j'ai mangé.
Je peux vous donner un conseil que j'ai vu. J'ai lu plusieurs lettres du rabbi, dans lesquelles il y avait des gens qui demandaient des brachot au rabbi pour l'éducation de leurs enfants, que visiblement, vous savez, des fois, les enfants, ça décolle pas. Tu sens, tu vois, l'école, ça m'intéresse pas, le kodesh, ça m'intéresse pas, ça ne parle pas. J'ai lu plusieurs lettres du rabbi, dans lesquelles le rabbi, il conseillait aux parents d'améliorer la cacheroute. Par exemple, celui qui mange de la viande normale, de la viande cachère normale, il va essayer de manger glatte, ou il va essayer de manger. Ou bien, vous savez, à la maison, on peut toujours faire, il y a toujours des zones qu'on sait qu'on peut s'améliorer. Et quand on améliore, surtout pour l'alimentation de l'enfant, eh ben, c'est une ségoula pour ouvrir l'esprit de l'enfant. Parce que la nourriture, c'est ça, la nourriture, ça peut boucher l'esprit d'un enfant. Ça bouche le cœur, ça bouche l'esprit. C'est ce qu'il dit ici. Donc ça, c'est pour illustrer ce qu'on vient d'expliquer. Quand on dit que c'est assour, c'est pas que c'est interdit. Parce que si assour, c'est interdit, dans ce cas-là, on aurait dû avoir des dérogations. Assour, ça ne veut pas dire interdit. Assour, ça veut dire enchaîné, bloqué. Et donc, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, quelqu'un qui a consommé quelque chose de assour, même si c'était un issour que des rabananes, des rabbins, et même s'il a fait sans faire exprès les shem shamaï pour le repas de Shabbat, pour tout ce que tu veux, ça change pas. Le mal est fait. Il n'y a rien à faire. Le mal est fait. Alors, velachen, c'est pour ça.
Ça a été bien utilisé. La viande, elle a bien été utilisée.
La viande a bien été utilisée, mais le mal est fait parce que c'est du mal. Ouais, une avéra, on ne peut pas la réparer, on ne peut pas récupérer la avéra. Ça n'existe pas.
Mais alors, tu as dit tout à l'heure que quand il arrive au ciel,
vous avez dit.
Ben, alors. Il ne serait pas puni. Il a fait.
Non, bien sûr, ça va punir. C'est comme imaginez un bébé qui a pris un pot de peinture et qui l'a jeté par terre. On va le punir pour ça. Un bébé. Mais est-ce que le parterre est noir maintenant? Oui, il est bien sûr qu'il est noir. Il a sali. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on l'a fait, on l'a fait. C'est fini maintenant, c'est fait. Tu ne peux pas l'enlever. C'est la même chose. Celui qui a mangé pas cachère sans faire exprès, c'est fait. C'est tout. Maintenant, est-ce qu'on sera puni pour ça? Non, mais c'est un mal qui a été fait. C'est pour ça que c'est un tikkun pour ça. Et d'ailleurs, le rabbi disait alors qu'est-ce qu'il va faire une personne maintenant qui fait teshuva à l'âge de 40 ans, 50 ans? Et que pendant toute sa vie, il a mangé pas cachère. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est foutu? D'accord, alors c'est quoi la réponse? La réponse, c'est une ségoula dans la Torah. Une autre ségoula, mis à part le fait que lui, dorénavant, il va faire attention à manger cachère. C'est d'encourager d'autres personnes à manger cachère. Parce que chaque personne que tu encourages à manger cachère, ça te rajoute un mérite supplémentaire pour toi et ça te purifie. Parce que toutes les nourritures cachères que l'autre va avoir, ils vont être attribués. Donc quelque part, ça va nettoyer la personne. Donc ça peut être une technique aussi.
En somme, tu parraines quelqu'un.
Bien sûr, quand on parraine quelqu'un, voilà, on peut voir ça comme ça. C'est pas une vente privée. Mais...
On veut dire que la capacité que tu as tout seul,
elle
est limitée.
Bien sûr.
Le fait d'aller chercher d'autres personnes, c'est
tu amplifies le mérite. Oui.
Que toi, tu n'aurais pas pu faire.
100%, 100%. Ça aussi, pareil, beaucoup de lettres du Rabbi sur ça. Il a encouragé des gens à encourager leur famille améliorer la cacheroute et que le mérite allait leur être attribué parce que sans moi, il n'aurait pas fait la cacheroute. Donc, puisque grâce à moi, il a fait la cacheroute, donc le mérite m'est attribué. Ok. Mais la reine, c'est pour ça.
Lui, il a pas le mérite.
Gam, Ayetzerara. C'est bon? On va avancer un petit peu. Est-ce que vous avez dans les mots Velachen? Donc, on est à la page 123. En haut de la page. Velachen. Velachen, c'est pour ça. Gam a yetzerara, ve koach amitave lutvarim asurin. Voilà pourquoi, même le yetzerara est la force d'avoir envie des choses interdites, ou shed mishedim nuchaim she ou yetzerara she lumot haolam, she nafshoteem she loch klipot atmiot. Maintenant, avec ça, il va expliquer une phrase du Zohar. Le Zohar nous dit une phrase a priori très bizarre. Il dit comme ça. Alors, je vais vous traduire en français parce que vous allez en français, ça va être encore plus bizarre. Regardez. Il dit, il y a le Yetzerara des nations et il y a le Yetzerara des juifs. En d'autres termes, il y a un Yetzerara goy et il y a un Yetzerara juif. Et même en nous, on a un Yetzerara goy et un Yetzerara juif.
En nous.
Ça veut dire quoi? Un Yetzerara, ça veut dire quoi? C'est quoi la réponse? Alors écoutez bien ce qu'il dit.
Mais nous, on n'est pas des nations.
Attendez, laissez-moi arriver. Il faut me laisser dévoiler, s'il vous plaît. Rappelez-vous la règle. Alors. J'ai rien dit parce que on est un peu préparé, mais.
Ça, c'est du
Yetzerara goy
ou...
Attends,
il
y a la bourra ici.
Alors,
les Chaïm.
Il dit, il y a deux catégories de Yetzerara. Il y a le Yetzerara goy, il y a le Yetzerara juif. On parle pas le Yetzerara des non-juifs. Je parle en moi. Il y a le Yetzerara comme un goy, et là, il y a le Yetzerara comme un juif. Ça veut dire quoi? De quoi on parle ici? Quand j'ai envie de faire une bêtise, quand j'ai envie de faire une avéra, qui est interdite, quelque chose qui est assourd, là, le Zohar appelle ça, ça vient d'un Yetzerara goy. Parce que c'est assourd, c'est fini. Mais quand maintenant, c'est quelque chose qui est permis, mais rappelez-vous le cours de la semaine dernière, j'ai envie de l'utiliser pour me procurer un plaisir, et je le fais que par plaisir. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit la semaine dernière? C'est cachère dans ce cas-là, c'est permis. Alors qu'est-ce que dit le Zohar? Le Zohar dit dans ce cas-là, ça s'appelle un Yetzerara cachère. Un Yetzerara cachère. Ça veut dire un Yetzerara juif cachère. Et d'ailleurs, d'ailleurs dans Yabiyam, mais ça fait pas longtemps, on a étudié que on a étudié une fois, on a dit que une fois, je crois que c'était l'Admour Hazaken qui a dit à ses élèves, il leur a dit, il faut faire attention. Des fois, le Yetzarara, il peut prendre l'apparence d'un juif religieux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que des fois, le Yetzarara, il peut te faire croire que tu vas faire quelque chose d'interdit, mais grâce à ça, tu vas gagner plusieurs choses permises. Par exemple, exemple classique, il va te dire, par exemple, prends la voiture pour aller à la synagogue Shabbat. Et grâce à ça, tu auras la Torah, le Minyan, le Kaddish, le Kiddush, d'accord? Tout, la totale. Pourquoi pas? D'accord, ça tient la route. Tu dis, quand tu mets les deux sur la balance, ça tient. Seulement quoi? Il a dit que des fois, le Yetzarara, il peut utiliser la forme d'un homme religieux. C'est-à-dire qu'il te fait croire que tu fais une mitzvah en le faisant, alors qu'en vérité, c'est une avéra. Et qu'est-ce qu'il a dit? Alors, un des chassidim qui a entendu ça, il a dit, de là, j'ai appris que le Yetzarara peut avoir la forme d'un chassid. C'est-à-dire qu'on peut avoir un Yetzarara avec un chapeau, avec une barbe, etc., et qu'il veut te dire, il va te donner un argument très solide. Des arguments très solides, mais en vérité, c'est un Yetzarara, il veut te pousser à faire une avéra. Le Yetzarara, il peut être très, très, très avancé. Ce qu'il dit ici, là, ce qu'il est en train d'expliquer ici, c'est que il y a le Yetzarara juif, il y a le Yetzarara goy. Le Yetzarara juif, c'est le Yetzarara qui va te pousser à faire quelque chose pour kiffer, par plaisir, qui est permis, mais il va te pousser à le faire pour kiffer. Bon, c'est pas interdit, mais il va te le pousser à faire pour toi. Et le Yetzarara goy, ça c'est le Yetzarara qui va te pousser à faire un interdit. Alors évidemment, vous allez me dire, nous on a déjà assez de mal avec le Yetzarara de pas faire des bêtises. C'est déjà suffisant pour nous, mais c'est important quand même de savoir que s'il y a certains éléments dans la vie, comme on a expliqué la semaine dernière, dans lesquels on peut essayer de faire un effort, de les faire pour Akadosh Baruch Hu, il faut essayer. Par exemple, comme on a donné l'exemple la semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, si par exemple, quand on fait le repas de Shabbat, on pourrait avoir un instant, une pensée, qu'on n'est pas là en train de faire la simcha de son ventre, mais on est là en train de faire la simcha d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de dire, répéter un Dvar Torah, on va penser à remercier sa femme qui a préparé le repas, parce que le repas il est pas tombé du ciel, enfin il vient d'Akadosh Baruch Hu, mais il y a quelqu'un qui l'a préparé. D'accord? On va penser à dire un Dvar Torah. Un Dvar Torah c'est pas compliqué, il suffit d'écouter même 2 minutes du cours de vendredi soir, parce qu'il y a des gens qui piquent du nez, c'est pas grave. Même si on écoute 2 minutes, on répète 2 minutes, il y a déjà quelque chose. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait à la synagogue? Et voilà, un Dvar Torah. 30 secondes, tu répètes un Dvar Torah. Ça, c'est une manière de montrer que je suis pas venu ici seulement pour faire un repas et pour kiffer. On est venu ici aussi pour Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une manière de montrer que on est en train de combattre le Yetzerara juif. Le Yetzerara kasher. Là, il y a le Yetzerara non kasher, il y a le Yetzerara kasher. Le Yetzerara non kasher, c'est celui qui me pousse à faire une avéra. Le Yetzerara kasher, c'est celui qui me pousse à faire quelque chose de permis et par plaisir. D'accord? Donc, c'est moins interdit, mais c'est quand même important. Ok. Maintenant, la Gemara Zaken, maintenant, est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? D'abord, parce qu'on va, après on va développer, on va rentrer dans d'autres détails. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Donc, pour résumer, ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, résumé du chapitre 7 et chapitre 8, nous avons deux catégories Yetzerara. Ça, c'est en fait le résumé. Un Yetzerara qui veut pousser à faire des Averot. Ça, c'est interdit. C'est assour. Assour en hébreu, monsieur Benita, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est
enchaîné.
Enchaîné, verrouillé, bloqué. D'accord? Incompatible, c'est bloqué, il y a rien à faire. Même si j'avais une kavana, il y a rien à faire. Et il y a d'autres choses qui sont permises, mais que des fois je peux les utiliser pour plaisir. Mais comme c'est permis, dans ce cas-là, avec une bonne kavana, je peux le faire redécoller parce que la chose était moutard. D'ailleurs en hébreu, ça, je sais pas si je l'ai dit la semaine dernière. Ouais. Moutard en hébreu, ça veut dire quoi?
Autorisé.
Non. Délié. Eh non, délié. Ouais. Comme on dit tous les matins, Baurat Hashem et le Kodem Lecholam, Matir Asurim.
Qui libère
les prisonniers. Vous savez pourquoi on dit ça, qui libère les prisonniers? De qui on parle quand on dit qui libère les prisonniers?
Nous,
en prison. On est en prison, nous. Merci Dieu de m'avoir libéré les prisonniers.
Non, en prison, on demande pour Hachem de libérer
les prisonniers. On parle de nous? De quoi on parle? Il y a plusieurs réponses. Une des réponses, c'est parce que le jour, quand on se lève le matin, et qu'on voit qu'on a la possibilité de bouger nos membres, de s'étirer, c'est comme si on sort de prison. On sent que le corps a besoin, le corps est renfermé comme ça. Et quand on s'étire, c'est une manière pour nous de goûter à la liberté. D'accord? Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça que vous savez qu'il y a une halakha au Shulchan Aruch qui dit que, vous savez comment? Vous savez comment s'étirer?
Oui.
Il y a une halakha comment? On n'a pas le droit de s'étirer comme ça. On n'a pas le droit. Je l'ai fait pour... Pourquoi? Parce que étant donné que s'étirer, il ne faut pas dépasser la tête. C'est écrit au Shulchan Aruch. D'accord? Le sport, c'est le sport. Pourquoi? Parce que étant donné que quand une personne s'étire, mais attention, je parle pas de s'étirer pour le sport, je parle de s'étirer le matin. Étant donné que s'étirer, ça donne un sentiment de liberté, si je, c'est un niveau ça, hein, mais lever les mains plus haut que la tête, ça veut dire ouais la liberté, tu vois, la liberté du style, pff, d'accord. Or, pourquoi on met la kippa au-dessus de la tête? Pourquoi on met la kippa au-dessus de la tête? Pour nous rappeler qu'il y a rien qui est au-dessus de nous, qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de l'homme, d'accord? Et que il faut se rappeler qu'il y a quelque chose qui, enfin, il y a rien qui est plus grand qu'Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu est au-dessus de l'homme.
Comment tu peux dire alors?
Comment tu fais? Comme ça.
Tu t'allonges.
Je ne tiens pas. J'enlève
les bras. Essaye, tu vas voir, ça marche. Je le fais tout le matin, ça marche très bien. Vas-y, essaye, fais-le devant moi.
Non, je sais pas, ça tire.
Non, pas comme ça. Pas comme, non, non, attention. Courbe, alors, TP, comme ça. Ça marche, la même chose. Exactement la même chose.
Sur le côté, comme ça, c'est.
Hein?
Voilà. Tire à Solim.
À Sorim.
C'est délié à Solim.
Alors. Ok.
Moi, c'est comme ça, moi.
Alors.
C'est trop tard.
Ah, c'est fini.
C'est bon. C'est comme Baruch Ata, Béni Ata.
Béni Ata.
Béni Ata. Ah, ouais, ouais.
Ah, il connaît, hein.
Ok.
Alors, on continue. Alors, il dit maintenant, il dit, Vegam, Acharkar. Alors, il dit, Ah, pardon, Mikol Makom. Seulement, la Dmorazaken nous a dit ici, une personne qui va écouter ce cours, une personne qui va écouter le chapitre 7 et le chapitre 8, pourrait penser que ça veut dire que ça va. Si je veux prendre un aliment cachère et que je le prends pour me faire un kiff et que pour me faire un kiff, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, qu'est-ce qu'on a expliqué la semaine dernière? Il suffit, après, d'étudier la Torah grâce à la force que j'ai récupérée de cet aliment. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme l'aliment est moutard, à Botaï, comme l'aliment est moutard, comme l'aliment est délié, donc il va monter chez Akadosh Baruch Hu. Alors j'ai envie de dire, vas-y, je vais aller au restaurant, je vais aller pour kiffer, je vais avoir la tête dans le kiff, dans la gloutonnerie, il n'y a pas de problème, c'est quoi le problème? De toute façon, après, je vais rentrer au Beit HaMidrash, juste à côté, je vais étudier un petit Dvar Torah, et après, ça va décoller. C'est mon dit, l'Admor HaZaken. C'est vrai, tu as raison. Dans l'absolu, tu as raison. Dans l'idée, tu as raison. Et comme il est moutard, ça veut dire qu'il n'est pas verrouillé. Et que comme il n'est pas verrouillé, même si j'ai mangé par gloutonnerie, mais qu'après, je vais utiliser cette force pour servir à Kadosh Baruch Hu, ça décolle. Mais il y a un problème. Et ça, j'en ai parlé rapidement la semaine dernière, mais c'est maintenant qu'on va en parler. C'est la trace que ça a laissé.
La gloutonnerie.
La gloutonnerie. Ça veut dire, il y a l'aliment que j'ai mangé, et la force qu'il va me donner, ça, effectivement, on peut le récupérer. Il y a la trace que ça va laisser.
On va faire d'une bière.
D'accord? Non? Il y a la trace que ça a laissé. Parce que chaque chose laisse des traces. Mis à part l'acte que ça a fait. C'est-à-dire que quand je fais un acte, il y a l'acte lui-même. Mis à part ça, même quand tu as nettoyé, il y a la trace. Il y a rien de ce, David, s'il te plaît, David. Il y a rien, il faut savoir que dans le monde, il y a rien qui laisse pas de trace. Il va en parler plus tard, c'est très important, ça. Vous savez, on dit par exemple, d'accord, s'il vous plaît. On dit par exemple, vous savez, quand je parle par exemple devant le mur là ici, je parle devant le mur ici, devant le poteau. Je dis bon, ça va. Maintenant après on va sortir de la pièce tout à l'heure, on va éteindre la lumière, c'est fini le poteau. Demain il y a une personne qui va parler devant, c'est fini. Il faut savoir, et ça c'est prouvé même scientifiquement, mais ça c'était écrit dans le Tania et dans le Zohar, que il y a rien qui ne laisse pas de trace, et que ce poteau avant que j'ai parlé devant et après que j'ai parlé devant, il n'est pas le même. C'est pas le même poteau. Seulement moi, dans mes yeux, il est le même. Mais si on va analyser avec les bons outils qu'il faut, les outils scientifiques, d'accord, c'est pas le même poteau. Pourquoi? Parce que chaque chose qu'on fait laisse des traces. Ça n'existe pas quelque chose qui laisse pas de traces. C'est ce qu'il dit ici. Il dit un aliment qui est interdit, on l'a dit, ça veut dire il est bloqué, il est verrouillé, il est bloqué. Ça, on l'a dit, pas de problème. Un aliment qui n'est pas interdit, il n'est pas bloqué. Donc, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux mal manger et après je vais étudier la Torah. Tu dis non. Bien sûr que ça va monter chez Akadosh Baruch Hu. Mais ça va laisser des traces. Et ces traces-là ne partent pas. Et vous savez ce que c'est les traces? Les traces, on explique ça beaucoup en psychologie. C'est des fois des gens. Des fois, ils ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il y a des choses qui leur reviennent lorsqu'ils avaient 4 ans. Lorsqu'ils avaient 1 an. Lorsqu'ils étaient bébés. Vous savez qu'aujourd'hui, les psychologues, d'accord, ils sont capables de vous faire ressortir quelque chose que le bébé a ressenti lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Ma parole. 1000%. Qu'un sentiment que le bébé a eu lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, ça laisse des traces. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il a grandi depuis? Il a vu des choses? Non. Il n'y a rien dans le monde qui ne laisse, ça n'existe pas.
Bah comment eux, ils le voient?
Il n'y a rien dans le monde qui laisse pas de traces. Donc, de la même manière, il t'est dit, j'ai mangé un aliment cachère. J'ai mangé un aliment cachère par gloutonnerie. Donc, temporairement, c'était mauvais. Mais après, j'ai une kavana Et c'est monté chez Akadosh Baruch Hu. Alors c'est quoi le problème? Il te dit oui. Mais du fait que temporairement, je l'ai fait avec une mauvaise kavana et je l'ai fait par gloutonnerie, cette gloutonnerie laisse une trace. Ça laisse une trace. Ça va partir, mais ça laisse une trace. Une trace qui ne partira jamais. Il faudra attendre, indélébile. Il faudra attendre après 120 ans. Et attention, je pense que vous allez arrêter de manger après ce que je vais dire. Alors, Vega Macharkar. Nishar Eshimu Mimenu, Nishar Davuk Baguf. Même après ça, après 120 ans, il reste la trace qui reste attachée au corps. Liot, qui colle ma'achal, qui mi colle ma'achal ou mashke. Na, c'est tekef. Damu vassar mifsaro. Tout de suite, dès que je mange, instantanément, ça s'est transformé en chair. Et cette chair-là, ça laisse une trace indélébile qui partira pas. Alors, comment on fait pour réparer ça?
On voit.
Là, vous arrêtez de manger. Mais la chaîne, c'est pour ça. Non, on va dire les chaînes. Non, c'est ça qui va bon.
Non. Tant qu'on fait pour HM. Mais quand c'est ça pour HM, on fait.
Je répète.
Qu'on mange le soir.
Serge, imagine-toi une personne qui mange comme un glouton. De la viande cachère. Il mange avec bracha avant, bracha après. Mais il mange comme un glouton. Excuse-moi du terme, il mange comme un porc.
Oui.
Voilà, c'est bon, c'est clair? Voilà. Ce bonhomme-là, il a mangé comme un glouton. Après, il rentre à la synagogue et par la force de ce qu'il a mangé, il va aller étudier la Torah. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit dès qu'il étudie la Torah et dès qu'il prie avec la force de ce qu'il a mangé, cette nourriture monte chez Akadosh Baruch Hu. Alors, il n'y a pas de problème alors. Tout va bien. Il y a un problème. C'est que pendant quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, le temps qu'il étudie la Torah, d'accord, la gloutonnerie, donc le côté mauvais de la gloutonnerie, a laissé une trace dans son corps. Et cette trace ne partira jamais. Alors comment on fait pour enlever cette trace? D'accord, écoutez bien. Velachen, c'est pour ça. Sarich argouf lechibut akever. C'est pour ça que c'est écrit dans le Zohar. Ça vient de la Gemara, ça aussi, parce que ça, chibut akever, ça vient de la Gemara. La Gemara en parle, mais le Zohar développe ça surtout. Il parle de chibut akever. Après 120 ans, une des punitions que le corps a, c'est quoi? Ce qu'on appelle chibut akever, ça veut dire le frottement et le nettoyage de la tombe. Alors, bien sûr, c'est pas littéralement, parce que littéralement, la tombe ne bouge pas, je vous rassure. Mais on dit que, vous savez, c'est comme une machine à laver, c'est quelque chose qui frotte, qui bouge, et qui tombe. Chibut akever, on appelle ça chibut akever. D'ailleurs, en passant, c'est lié aussi au ver. Au ver qui mange le corps de l'homme.
Le ver de terre.
D'accord? Seconde, laissez-moi développer. C'est lié aussi au ver de terre qui mange le corps de l'homme. Parce que quand ils le mangent, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent toute la vermine qu'il y a dans, ils enlèvent tout le côté mauvais qu'il y a dans le corps de l'homme, et donc ils vont le nettoyer, ils le nettoient. Alors ici, il donne un exemple intéressant. Il dit, regardez, quand vous avez par exemple un drap, vous avez un drap qui est sale, vous avez un tapis qui est sale, qu'est-ce que vous faites pour le nettoyer? Vous le tapez. Hein, vous le tapez contre eux, d'accord? Vous le secouez, non mais des fois, secouer ça suffit pas. Tu prends le tapis de la voiture là, quand tu es d'accord? Celui-là, il faut le taper parce que sinon, et chaque fois que tu tapes, pac, t'as des nuages qui sortent. D'accord? D'accord? Vous l'avez déjà vu ça? Bon. Alors. On est d'accord? Pardon? Il n'y a pas de problème, mais il y a des nuages qui sortent. Alors. Justement, écoutez bien. Chibut akever, c'est quoi? Chibut akever, c'est le moment dans lequel on nettoie le corps. On nettoie le corps de quoi? D'abord, on nettoie des avérotes qu'il a fait. C'est une chose, mais même si c'est un corps qui n'a pas fait d'avérote, du fait même qu'on a fait des choses par plaisir, il faut nettoyer ça, parce qu'on n'a pas fait pour Akadosh Baruch Hu. Normalement, tout ce qu'on aurait dû faire, on aurait dû faire pour Dieu. Dire, mais c'est impossible, attends, personne ne peut le faire. Ok, pas de problème, on va pas te punir pour ça. Mais il faut nettoyer. C'est comme une maman. Imaginez une maman, son fils, il s'est sali, il a eu une tache d'encre sur sa main. On va pas le punir pour ça, c'est pas de sa faute, c'est un bébé. Mais il faut le nettoyer. Et quand elle va le nettoyer, qu'est-ce qu'elle va faire la maman? Qu'est-ce qu'elle va faire la maman? Elle va le mettre, d'accord, sur la douche avec l'eau chaude, et elle va frotter. Et qu'est-ce qu'il va faire le gosse? Il va hurler. Il comprend pas ce qu'il lui a dit. Mais pourquoi tu me frottes? Mais on n'a pas le choix. Parce que c'est ça, il faut nettoyer. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que, deux secondes, parce que dans la Torah, on explique que dans la Torah, ça n'existe pas la punition pour la punition. C'est très important ce que je vais expliquer. Nous, dans notre monde, il y a le concept de la punition pour la punition. Je donne un exemple très simple. Imaginez par exemple que mon enfant a fait une bêtise. D'accord? Et comme il a fait une bêtise, je lui dis, dimanche, on devait aller en sortie, tu es privé de sortie dimanche. Bon. Est-ce qu'il y a un rapport entre la bêtise qu'il a fait et la sortie de dimanche?
Ouais.
Aucun. Il n'y a aucun rapport. Il n'y a pas de rapport. Le rapport est dans ma tête et dans la tête de l'enfant. Mais il n'y a pas de relation de cause à effet entre la sortie de dimanche et la faute. Et en ne pas allant à la sortie de dimanche, je ne vais pas réparer la faute qu'il a fait. C'est seulement une punition. une punition pour l'aider à ne pas recommencer.
S'il a sorti cet après-midi, il y a une voilà. Réparation directe.
En tant qu'éducation, pour l'encourager à ne pas recommencer. C'est ce qu'on appelle une punition. Akadosh Baruch Hu ne donne pas des punitions comme ça. Akadosh Baruch Hu, il donne des punitions qui réparent. Que la punition elle-même est réparatrice. Un exemple. Imaginez, donc c'est pas une punition, c'est un droit, c'est une capacité à réparer. Exemple. Imaginez quelqu'un qui est venu, si mon enfant par exemple a pris son stylo, il a fait des traces sur le mur, la punition en mode Akadosh Baruch Hu, ça aurait été, je lui apprends à faire la peinture et je lui dis tu vas faire la peinture sur le mur. C'est une punition, bien sûr c'est une punition. Mais c'est pas une punition pour une punition, c'est une punition qui répare ce que lui-même il a cassé. Donc en vérité, je suis content quand je répare, parce qu'on me donne la possibilité et le moyen de réparer mes fautes. Et ça, c'est ce qui se passe après 120 ans. Il n'y a jamais de punition dans la Torah. C'est pas une punition dans le sens « renèche », d'accord ? Dans le sens « on le frappe pour le frapper, pour le dire « tu m'as embêté, je vais t'embêter ». Non. C'est dans le sens « on te donne un moyen de réparer la faute que tu as fait ». Et même quand c'est écrit, le Harizal, il dit comme ça, que même quand c'est un cas dans lequel il y a une peine capitale, dans la Torah c'est très rare, mais il y a des cas dans lesquels il y a une peine capitale, dans lesquels il faut mettre la personne à mort. Pourquoi on met la personne à mort? Parce qu'on estime que cette personne-là, ici-bas, la faute qu'il a fait est tellement grave que c'est, y a pas moyen de la réparer. Et que la seule manière de réparer sa faute, c'est si son corps s'en va. Et là, comment on dit, le rituel qu'on disait, quand on le faisait, on disait, mitato, tehe kaparato. Que sa mort soit son pardon. Que la mort, c'est son pardon. Ça veut dire que, encore une fois, dans la Torah, il n'y a pas de punition pour punition. C'est pas, tu m'as embêté, je t'embête moi aussi. Ça n'existe pas, ça. Akadosh Baruch Hu, c'est Teva Atov Le'etiv. C'est du chesed pour le chesed. C'est de la bonté pour la bonté. Seulement quoi? C'est comme la maman. Une maman, c'est bon avec son fils. Alors pourquoi elle est en train de le frotter? Parce qu'elle n'a pas le choix. C'est une manière de lui montrer sa bonté, de lui donner la capacité de réparer. Alors c'est la même chose qu'il dit ici. Il dit qu'après 120 ans, qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces choses-là qu'on a fait par plaisir, et qu'on a oublié Akadosh Baruch Hu. Même quand on était dans un repas de Shabbat, dans un repas de Yom Tov, etc. Des fois, on le fait par plaisir, par kiff. On oublie qu'on fait ça pour Akadosh Baruch Hu. S'il vous plaît, deux secondes. Il faut me laisser finir, s'il vous plaît. Donc, quand cette personne-là, à force de manger ces choses-là, et de pas faire l'Hashem Shamaïm, ça a laissé des traces. Toute cette gloutonnerie a laissé des traces. Et ces traces-là, il faudra bien les nettoyer un jour. C'est pas une punition, mais il faudra bien les nettoyer. Comment on va les nettoyer? On va les nettoyer après 120 ans, quand Akadosh Baruch Hu, il va nous frotter notre corps. Il va nous frotter notre corps. Et donc ça, c'est le moment, ce qu'on appelle Ribout Akever. Seulement. Je voulais rajouter un point intéressant qui dit ici. Alors, un point intéressant qui rajoute ici à la fin, et après, on fera une pause question. Un point intéressant qui dit ici, c'est que c'est écrit dans Yom Yom, qu'il y a une technique pour être sauvé de ça. De cette machine à laver. Il y a une technique. C'est quoi la technique? La technique, c'est que 1/6 de la journée, donc des 24 heures, donc ça fait combien 1/6 de 24 heures? 4 heures. Donc 4 heures de la journée, si 4 heures par jour, on occupe la journée avec de la Torah, alors vous pouvez tout mettre dedans. Vous pouvez mettre votre tfila, votre tehilim, votre étude, d'accord, vos cours que vous écoutez en MP3, tout, vous pouvez tout mettre dedans. 4 heures, c'est beaucoup 4 heures, c'est pas rien 4 heures. Mais c'est écrit que celui qui arrive à avoir 4 heures d'études par jour, et qui arrive à un rythme de 4 heures par jour, celui-là après 120 ans, Akadosh aurait dit, toi tu es exempté de Ribout Akever, toi tu es exempté du nettoyage, je t'ai nettoyé. Pourquoi? Parce que les 4 heures d'études par jour obtiennent le même effet de nettoyage, comme ça il faut comprendre, que ce qu'on aurait eu par le nettoyage machine à laver après 120 ans. Parce que chaque fois qu'on écoute un Dvar Torah, ça nettoie. C'est comme ça. 4 heures par jour, ça nettoie. 6 heures, c'est beaucoup 4 heures par jour, c'est pas rien. Mais attendez, ça peut, attendez, une personne qui va à la synagogue tous les jours, avec tous les... C'est pas...
4 heures pendant combien de temps?
Tout ce qui est les mots de Torah et les mots de Tfila, c'est écrit. Tout, mots de Torah, mots de Tfila, Mishnayot, Tehilim, pardon, tout ce qui est lié à la Torah. Bien sûr, réviser le Chumash avec mes enfants, tout ce qui est... Tout ce qui... Non, ça rentre pas dedans.
Tu fais mettre une tefila à quelqu'un, tu vas faire les cours pour quelqu'un.
Non, ça rentre pas dedans. Oh, les mots de Torah et les mots de tefila.
Mais ça rend super temps pour la Torah.
Non?
Mais c'est pas des mots.
Au lieu d'aller étudier, tu vas faire une mise
en place. Non, ça c'est du chesed.
Ça c'est du chesed, mais ça ne rentre pas dans le décompte des otiyot à Torah va tefila. Il y a un décompte.
Ça n'est pas ton.
On va négocier ça.
D'accord.
Aujourd'hui, c'est le rabbi de la école.
Téléphone, David.
Et donc en fait, il est passé chaque élève. Non, moi je suis passé, il a fait, il faut que je fasse 4 heures de Gemara par jour.
4 heures?
Ouais.
Et ben voilà.
Par jour.
Enfin, 4 pages en gros.
Ah, 4 pages ou 4 heures?
4 pages, 4 heures. Il a dit ça. Non, tu l'as dit, donc.
Eh ben voilà, 4 heures. Tu comprends pourquoi 4 heures maintenant.
Bah non, c'est ça, 4 heures.
4 heures. C'est beaucoup, 4 heures.
Ah, c'est
non. Alors. Oui, alors maintenant, attendez. Donc juste 2 secondes. Donc je résume. Je résume après les questions. Donc c'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle. Après 120 ans, il y a besoin de ce fameux nettoyage. Qui est aussi le nettoyage de la vermine. C'est pour ça qu'on dit que les tzadikim, leur corps n'est pas affecté par la vermine. C'est des choses qui sont prouvées, ça.
Oui.
On a vu clairement des tzadikim qui ont été déterrés, qui étaient enterrés par exemple en Italie ou au Maroc, etc., qui ont été déterrés pour être en Israël. Et des gens qui ont témoigné de leurs yeux, des juifs et des non-juifs, c'est témoigné avec tout ce que tu veux, qu'il y avait des corps de tzadikim qui étaient décédés plusieurs décennies plus tôt, qui étaient intacts. C'est des choses réelles, ça, ce que je vous raconte. C'est pas du pipeau. Comment c'est possible? Parce que pourquoi? Parce que comment ça se fait que nos corps à nous sont affectés par la vermine? Nos corps sont affectés par la vermine parce que tous les plaisirs qu'on a eus, eh ben la vermine enlève ces plaisirs-là. C'est pour ça. C'est la seule raison. Mais comme le tzaddik, il a fait tout fait les shamayim et qu'il n'a jamais fait pour se procurer du plaisir, c'est pour ça que le tzaddik, même après 120 ans, il n'y a rien à reprendre. Son corps est intact, son corps est parfait. Ok? Maintenant les questions. Allez-y.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand on ouvre le cercueil, ça veut dire que si on ouvre le cercueil, il y aura le corps, il y aura sa chair.
100%. Le corps intact. Le corps intact.
Avec la chair.
Voilà, ouais.
Avec tout.
Le corps intact.
Alors que nous.
Alors allez-y, vas-y, Avenir, t'as une question. Vas-y, attends. Allez, on va faire les.
Là, il y a un quart d'heure qui est passé depuis.
Ok, il y a 3 minutes.
Ouais, mais entre-temps, il y a des arrêts.
On parlait des cercueils à vote. Ça disait que dans les cercueils à vote, ça marchait. Beaucoup de viande, beaucoup de
verre. Oui.
Voilà. Et d'un autre côté, il y a une idée de honnête Shabbat.
Bien sûr.
De se délecter de Shabbat.
C'est ça, ta
question. Comment c'est difficile de séparer le plaisir, c'est un plaisir personnel, et de tout essayer même pendant Shabbat.
Si je le fais en l'honneur du Shabbat.
Tu as attendu pendant quelqu'un qui vraiment qui profite du Shabbat. Il y a plein de gens comme ça. À part, j'ai un collègue qui fait ça. À partir du lundi soir ou du mardi soir, regarde sa montre et dit c'est J moins.
Quand la cavote.
Ah oui, c'est moi.
Il faut le présenter, ce garçon-là.
Quand...
C'est toi, ça.
Et quand. J'aimerais que toi.
C'est lui. Non, lui, c'est 15 jours.
Non, j'essaie d'apprendre.
Ouais, attendez, on essaie de finir.
C'est un niveau. Et donc, de ça, quand arrive le Shabbat, il me dit physiquement, il est gros. Comme moi, il est gros.
Il n'y a pas de problème.
À cause de mais quand il dit ah, ce Shabbat, je me suis lâché. Ah, ce Shabbat, bon. Il avoue, c'est.
Je vais le répéter le cours.
C'est un abus de faiblesse.
Je vais le répéter le cours.
C'est un abus de faiblesse. Mais en même temps, est-ce que c'est réellement un abus de faiblesse? Quelqu'un qui, comme ça, pense depuis le début de la semaine, il pense à quoi au Shabbat?
Alors, je donne la réponse à la question. D'accord. Je vais donner la réponse à la question. La réponse est très simple. C'est que, arriver à 100% à faire les choses, arriver à 100% à faire les choses que pour Akadosh Baruch Hu et pas par plaisir, pour le commun des mortels, c'est impossible. D'accord? Soyons d'accord. Voilà. On va être honnête, c'est pas possible. Alors pourquoi on en parle? Parce que d'une certaine manière, c'est possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pour ça que j'ai donné l'exemple tout à l'heure du repas de Shabbat. Ça veut dire à 100% que je fais pour Akadosh Baruch Hu comme un tzaddik. C'est impossible. C'est-à-dire, vous inquiétez pas, les vermines vont attaquer notre corps après 120 ans comme tout le monde. Il n'y a pas de problème. Seulement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut minimiser le problème. On peut minimiser le problème, ça veut dire avoir un peu moins la tête dans la gloutonnerie et peut-être penser un petit peu comment on va rajouter le paramètre du kavod de Shabbat dedans. Donc, par exemple, en rajoutant un dvar Torah, en essayant de... Un petit peu. Et quand on essaye, ça marche.
Ce que tu veux dire que c'est un but à atteindre.
C'est un but qu'on atteindra, certainement jamais. Mais déjà, même un petit peu, c'est déjà ça.
C'est que l'attention.
Exactement. L'attention, exactement. Tout est dans l'attention. Ok, autre question. Oui.
Il n'y a pas de punition, donc il y a un tikkun, il y a une réparation à chaque fois.
Oui.
Est-ce qu'on peut réparer pour. Est-ce que c'est possible? Bon, il y a forcément des gens qui ont pas besoin de réparation.
Le tzadikim.
Voilà, et pourtant, en parlant du rabbi,
il a des autres.
Ils réparent les fautes des autres.
Mais leur corps n'est pas affecté.
Ouais.
Leur corps n'est pas touché.
Bon,
c'est un fait, ça. Hein.
Je vois des vidéos du rabbi. Donc, non.
Oui.
Rabbi, il était comme ça, il ne parlait pas, c'est tout.
Quand les sadiques s'en vont.
Non, je ne parle pas de la maladie. Je parle, une fois que la personne est morte, qu'il enterre.
Quand il y a une maladie comme ça qui survient à quelqu'un, qui a priori, nécessairement, ne mérite pas tout ce qui lui arrive. En particulier le rabbi ou quelqu'un d'autre.
Non, c'est pas ça. Oui, d'accord.
Est-ce qu'on peut payer pour quelqu'un d'autre?
Bon, c'est écrit être l'inou nassa, oui, c'est écrit que les sadikim, ils prennent sur eux les fautes des autres. C'est écrit, ça, mais bon, enfin, c'est pas notre niveau, ça. Mais en tout cas, par rapport à la vermine, c'est écrit clairement que c'est écrit que en rima sholetet ba'em, que la vermine n'arrive pas, n'a pas d'emprise sur le corps d'un tzaddik. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe quand la vermine attaque le corps de l'homme? Ça veut dire que la vermine est plus forte que l'homme.
Il y a matière à gratter alors que je
suis... Non, mais ça veut dire que la vermine est plus forte que l'homme. Parce que c'est comme dans le, c'est comme la jungle. Dans la jungle, celui qui bouffe l'autre, c'est qu'il est plus fort que l'autre. Ça veut dire qu'une vermine est plus forte que moi?
C'est normal, le corps il est inerte, il est mort.
Mais concrètement, c'est-à-dire que la vermine est plus forte que moi à ce moment-là.
Bah oui, évidemment.
Et ben chez le tzaddik, d'accord, c'est pas comme ça.
Mais alors.
Mais ça, ce que je vous dis, c'est ma mâche, hein. C'est des choses qui sont, c'est pas des choses, c'est pas de la science-fiction, ce que je vous dis. C'est des choses noir sur blanc, des gens qui l'ont vu. Et des gens sérieux. C'est pas du
pipo quoi. Mais enfin, cette vermine que vous dites, comment, lorsqu'elle a un corps de tzaddik, elle rencontre un sens interdit comme ça, tout d'un coup.
Comment?
Cette vermine que vous dites.
Oui.
Lorsqu'elle a un corps d'un tzaddik, comment elle rencontre un sens interdit?
Parce qu'ils ressentent.
Comment elle peut, elle va faire les distinctions entre un corps d'un rachat et un corps
si
d'un.
Si je serais un ver de terre, j'aurais pu vous répondre, mais certainement. Dieu leur donne les mains pour la différence.
Parce que c'est,
dis,
bon, c'est...
Okay.
C'est le Rida qu'on a déterré en Italie.
Oui.
Il y a combien de temps à peu près, tu sais?
Le Rida, on raconte sur le Rida. C'est le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal qui raconte que lorsqu'ils ont déterré le Rida il était enterré dans un village en Italie. Je n'ai plus le nom du village. Un village vraiment paumé, quoi. Et il n'y avait personne qui habitait, il n'y avait plus de communauté juive dans ce village. Alors les Chachamim d'Israël, ils se sont rassemblés, ils ont dit. Le Rida est un grand Rav, surtout il y a beaucoup de communautés sfarad qui le suivent, dont le Rav Mordechai Eliyahu suivait beaucoup le Rida. Et il estimait que c'est un manque de respect. Il estimait que c'est un manque de respect pour le Rida d'être enterré là-bas et qu'il n'y ait personne. Alors, dans ce cas-là, il y a des permissions pour déterrer. Donc on l'a déterré. Ils l'ont déterré. Donc on a amené M. Benita. On l'a déterré. On a amené un minyan. Et le Rav Mordechai Eliyahu, il était là. Ça a été filmé et tout. Hein, je vais montrer les choses. Le Rav Mordechai Eliyahu, il était là. Il a raconté. Donc c'est lui qui a orchestré tout ça. Ils ont pris le corps du Rida. Et il a raconté. Il a dit que pendant tout le chemin pour aller jusqu'à l'aéroport, le corps se portait tout seul. Il l'a vu de ses yeux. C'est des choses. C'est pas des choses. Le Rav Mordechai Eliyahu, c'est quelqu'un de très sérieux. Hein, c'est pas un charlatan, chas v'shalom. Oui. Et le corps se portait tout seul. Bon, ok, c'est un S. Ils sont arrivés à l'aéroport. Ils ont voulu mettre le corps dans l'avion. Et là, le corps était posé comme ça. Le corps était posé dans une civière, enfin dans un truc. Le cercueil a commencé à bouger. Un truc de malade. Le cercueil a commencé. C'était comme des fous. Les autres, les dieux, ils sont tous sauvés. Ouais. Le Rav Mordechai Eliyahu, il voit ça. Le Rav Mordechai Eliyahu, il a raconté. Il a dit, je me suis mis à hurler. Comme ça, il a dit. Je me suis mis à hurler. J'ai dit, Rabbi Chaim Yosef. Comme ça, il a appelé son nom. Il a dit, ça, on l'a fait pour ton kavod. On l'a fait que pour toi, on l'a pas fait pour nous, on l'a fait pour toi. Alors, on le fait pour, même si on, peut-être qu'on n'a pas fait les choses comme il fallait, parce que s'il bouge, c'est peut-être qu'il est pas content. Il dit, même si on n'a pas fait les choses comme il fallait, peut-être qu'on n'a pas eu des kavanot à 100%, mais on le fait pour ton kavod, il faut que ça s'arrête, etc. Il a dit, j'ai terminé ma tefila, après, il n'y a plus de problème jusqu'à la fin. Mais ce qu'il a témoigné, il a dit, son corps était intact. Rien.
Il a ouvert, il a vu.
Les gormes.
254 ans après, il a été amené.
Ah, mais c'est extraordinaire. Mais c'était.
Mais comment ils ont ouvert?
Ils ont ouvert, ils l'ont déterré.
Oui, d'accord, mais il y a un linceul.
Mais ils l'ont déterré. Rien.
Il a été enterré.
Pas.
Libourne.
Libourne.
Non, répète.
Ligorne.
Je sais pas, je ne sais pas vous dire. En tout cas, je sais que c'était un endroit dans lequel il n'était pas à son honneur. Donc c'est pour ça qu'ils ont dû le prendre.
Pourquoi il n'était pas content au début alors?
Non. Quoi? Oui,
c'est pareil.
C'est sûr. Non, alors, rabotez, on continue.
J'ai une question.
Donc, oui.
Tu dis plusieurs fois, maintenant, j'ai le cœur Ravinovitch, j'ai 10 fois.
Oui.
Ça compte quand même bien.
Ça compte.
Ah, non, c'est 10 fois le même cours.
Ça compte dans les 4 heures.
Ah, d'accord. Je sais pas,
malheureusement,
je
sais pas. Ah, bah, ça a brûlé, mais
c'est parce qu'on veut. voilà. Allez, Rabotin, continue. Mais la reine, c'est pour ça. Allez. Rabotai. Allez, on y va. Mais la reine, c'est pour ça. Tsarich agouf le chibout à kever. C'est pour ça que le corps a besoin. Le chibout à kever. Donc, au nettoyage du corps. Les nakoto ou les taharo mitum ato shekibel baanat ou la mazeveta anugav. Voilà pourquoi, après 120 ans, la majorité, 99,9% des gens, même des gens très religieux, qui n'ont pas fauté, mais bon, qui ont mangé, qui ont consommé par plaisir, ils ont besoin d'être nettoyés, d'accord? Et c'est le fameux nettoyage qui est après 120 ans, pour le nettoyer des impuretés qu'il a eues des plaisirs de ce monde-ci. C'est pas une punition, comme on a expliqué, c'est au contraire, c'est une manière qu'Akadosh Baruch Hu me donne de me nettoyer. C'est une Dieu me donne un jex, il me dit vas-y, on va nettoyer maintenant. C'est comme ça. Mitumat klipat noga veshedim yehudain ela imken michelo neena meolamaze kolemav kiravenu akadosh. Pour être exempté de ça, il faut être un tzaddik, mais pas n'importe quel tzaddik. Il faut être un tzaddik de l'envergure de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, qu'on appelle Rabbi Yehuda Akadosh, c'était une personne, voilà, alors, il avait raison. Rabbi Yehuda Hanassi, Rabotai, on nous montrait, et comme Avraham nous a fait remarquer, qu'en vérité, il n'y a que quelques tzadikim qui ont ce route-là, donc c'est pour ça que quand on parle du Chida, le Chida c'est vraiment un des grands tzadikim. Attendez, deux secondes, je vais développer. C'est quoi l'histoire? C'est on dit Rabbeinu Akadosh. Qu'est-ce qu'on sait de Rabbeinu Akadosh? Rabbeinu Akadosh, on raconte que lorsqu'il est parti de ce monde-ci, il a levé ses 10 doigts vers le ciel. Et il a dit comme ça. Il a dit, Ribon Shayola, maître du monde, Galou Yveyadou Alefanecha. C'est clair. Et c'est évident devant toi. Sheyagati Beser et Beotai Batorah. Que je me suis fatigué avec mes 10 doigts dans la Torah. C'est-à-dire que j'ai utilisé toutes mes forces pour la Torah. Velon et Neti Afulu Beetzbaktana. Et que je n'ai pas profité de ce monde, même avec mon plus petit doigt. Maintenant, pour comprendre cette phrase de Rabbi Yehuda Hanassi, il faut comprendre quelque chose d'important. Rabbi Yehuda Hanassi était très riche. C'était un nassi, c'était un chef. C'était le chef de l'exil. En plus, il était très riche. On dit qu'à sa table, il manquait jamais ni le radis, ni les salades vertes, etc. Alors aujourd'hui, qu'on a fauchon, c'est pas quelque chose de compliqué. Mais à cette époque-là, pour avoir toutes les salades de toutes les saisons, d'accord? Tout le temps, ça veut dire qu'il fallait être très très riche. Et on dit que Rabbi Yehuda Hanassi, à sa table, il n'a jamais rien manqué. D'ailleurs, il était très ami avec plusieurs empereurs, etc. Il y a plusieurs histoires dans la Gemara autour de ça. Donc ça veut dire que dans cette table, il y avait à manger. Antonin, d'accord. Moi, je rentre pas dedans. Donc en tout cas, c'était quelqu'un de très riche et qui vivait dans l'opulence. Vraiment. Ça veut dire qu'il vivait dans ça et il mangeait ce qu'il y avait à table. Alors comment une personne comme ça, il peut dire « j'ai pas profité » ? Le commentaire nous fait remarquer qu'il a pas dit « j'ai pas mangé », il a pas dit « j'ai pas bu », il a dit « j'ai pas profité ». Qu'est-ce que ça change ? Attendez. Toute la nuance est là. Comme a dit monsieur, tout est dans l'intention. Il n'a pas dit j'ai pas mangé, il a dit j'ai pas profité. C'est pourquoi j'ai pas profité. Ça veut dire que il l'a fait, mais il l'a fait les Shem Shamaim. D'ailleurs, c'est à lui qu'on attribue cette histoire, qu'une fois, il a invité Antonin, qu'on s'appelait Antonius, il l'a invité, il est venu pour un repas de Shabbat. Et donc, il lui a servi le repas de Shabbat. D'après certains avis, il était froid ce repas de Shabbat. Mais il était très très bon. C'est un repas de Shabbat. Alors, il était impressionné, son invité était impressionné du repas, il lui a dit, est-ce que tu peux lui donner la recette? J'aimerais que mes chefs me fassent la même recette que ça. Alors, il lui a donné la recette. Et on n'avait pas le plat à cette époque-là. C'était froid.
Il y avait des pierres.
Alors, on lui a donné la recette. Les chefs ont essayé. Rien à faire. Alors Antonius, donc, Antonin a envoyé le message à Rabbi Yehuda Hanassi. La fois d'après, il lui a dit, mais voilà, on a fait la même recette. Tu m'as caché quelque chose? Elle a dit, oui, il manque une épice. Ah bon? Pourquoi tu m'as pas dit? Tais-moi, on est frappé de tout à payer. Il dit, non, il manque une épice, tu peux pas avoir. Comment elle s'appelle cette épice? Cette épice s'appelle Shabbat. Ma vache. Vous pouvez essayer. Faites une défini à Shabbat. Faites une défini à la semaine.
Non, rien à voir.
Ah ouais, c'est vrai, ça.
Essayez.
Oui, c'est vrai. La soupe à Pessah.
Il y a un bracha spécial.
C'est pas la même chose. Dans le travail, pour aller
dans le travail.
Donc.
Eh
ben, tu serais étonné, mais à Yerushalayim, en Israël, j'ai vu ça aussi à Anvers. T'as des endroits dans lesquels toute la semaine tu peux acheter du cholen, de la dafina, du tout ce que tu veux. Et des gens qui aiment manger ça, ben ils ont ça. Ça n'a pas le même goût. Même si tu laisses mijoter toute la nuit, même. Il y a une bracha spéciale le Shabbat.
Même si tu t'habilles Shabbat, les habits de Shabbat, tu fais tout.
On essaie. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que.
Le vendredi soir, tu
la Gemara a dit. Alors, la Gemara a dit quoi? Elle dit que Rabbi Yehuda Hanassi, c'est une personne, c'est pas qu'il n'avait pas la richesse, il avait la richesse, il avait les grands plats, il avait la haute gastronomie. Mais, il n'a pas profité. Alors les commentaires s'arrêtent beaucoup. Ils disent, mais c'est pourquoi il n'a pas profité? Ben, quelqu'un qui mange, il kiffe, c'est pas possible. Quand tu manges, c'est bon, tu kiffes. Alors, j'ai lu un commentaire du Rabbi Rachab qui dit la chose suivante. Il dit qu'il y a des tzadikim qui sont au niveau qui ne ressentent plus le goût des aliments. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à un niveau que pour eux, ils ont habitué leur palais à ne plus chercher est-ce qu'il manque du sel, est-ce qu'il manque pas de sel, est-ce qu'il manque du sel, est-ce qu'il manque du sel. Mais c'est un niveau qu'on est à des années-lumière de ça. Et c'est pour ça qu'on cherche même pas à être à ce niveau. Mais c'est pour vous montrer à quel point il y a des gens qui peuvent être à des années-lumière de nous. C'est-à-dire que nous, on est là à se retenir, eux, là-bas, ils sont là, ils peuvent manger un plat haute gastronomie, ils voient pas la différence.
Ça n'a qu'un intérêt dans ce cas de mettre des radis, des trucs à foutre.
D'accord? Quel intérêt? L'intérêt, c'est parce que vivre dans la richesse, ça peut ouvrir l'esprit. Tu comprends? Et donc, pour vivre dans la richesse, vivre dans la largesse, avoir un grand appartement, avoir une grande maison, avoir une grande table, ça ouvre l'esprit. Et il le fait lire votre Shabbat Kodesh pour un Kadosh Baruch Hu. Mais lui, en soi, il ne goûte pas l'aliment. D'ailleurs, on raconte à propos de l'Admour Hazaken, l'auteur de ce livre, qui était un grand sadique, aussi un très grand sadique. On raconte qu'une fois, il a invité un de ses amis à la table de Shabbat. Et lorsqu'il était à table, il y avait tout le monde, d'accord, tout le monde à la maison, il savait qu'il y avait un ami de l'Admour Hazaken qui s'appelait, je crois, Rabbi Shlomo de Karlin, qui allait venir. Alors, tout le monde à la maison voulait essayer de participer pour ce grand repas. Donc, un, il a dit, moi, je préparais le poisson, l'autre, il a dit, je prépare la viande, etc. Il y a un poste qu'on a oublié de dispatcher, c'était qui va mettre le sel dans les aliments, qui va saler les aliments. Alors, juste avant le repas, la bonne s'est rappelée qu'on n'avait pas dispatché ce poste, alors tout de suite, elle dit, oh, on a oublié le sel. Chut, elle a mis le sel partout. Après, la maîtresse de maison, elle aussi, elle rentre dans la cuisine, yeah, on a oublié ce poste. Chut, et elle passe le sel aussi. Donc, les plats ont été salés deux fois. Donc, c'était doublement salé. Alors, on sert les plats à table, et l'Admor Hazaken, il commence à servir, il mange, etc. Et l'autre, Michelomo, il mange un petit peu. Ouais, il n'arrive pas. Alors l'Admor Hazaken, il n'arrive pas. Alors l'Admor Hazaken, il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Vous mangez pas? Vous n'êtes pas à l'aise? Qu'est-ce qui se passe? Alors tu dis comme... Vous voyez pas? Ils ont un truc, j'ai moi. Alors écoutez bien ce qu'a répondu l'Admor Hazaken. L'Admor Hazaken a répondu, et je pense que s'il lui a raconté, c'est parce qu'il pense que cet élève était capable d'en faire de même. Il lui a dit, depuis que j'ai été chez mon maître, le Magui de Meserich, j'ai appris mon palais à ne plus ressentir le goût des aliments. C'est-à-dire qu'il a mangé un plat doublement salé, il n'a rien senti. Comment on peut comprendre un jeu comme ça? Parce qu'en vérité, tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Vous avez des gens, regardez. Moi, j'aime pas les piments, par exemple. Vous avez des gens... D'accord? Vous avez des gens, il vous prend un piment qui est hyper dur, il va te le prendre, mais c'est rien pour lui.
Ah ouais.
Parce que son palais est habitué.
C'est moi, ça.
Tu comprends? Et moi, tu prends un petit piment, tu exploses. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Il n'y a rien d'absolu. Il n'y a pas de piment qui pique, il n'y a pas de piment qui pique pas. Tout est dans la tête. Si dans ma tête, j'ai décidé qu'il va piquer, il va piquer. Si j'ai décidé qu'il pique pas, il piquera pas.
Ah, c'est
vrai. C'est ma mâche, tout est dans la tête.
Margarita.
Eh ben non. Il y a des gens que pour eux, tu peux prendre un plus grand margarita, ça leur fait rien.
Ah ouais, ça
c'est. Il y a des gens, un tout petit peu, ils explosent. Et je vais te dire plus que ça, David. La même personne qui te dit, je supporte pas la harissa, tu lui fais goûter un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, il s'habitue et après il ne ressent plus rien. Comment c'est possible?
Mais le mec après va kiffer, c'est ça le truc.
Parce qu'il n'y a pas de relation de cause à effet. C'est pas binaire. Et c'est quelque chose t'es dans la tête. Et tu t'es habitué. Donc, lui, il s'est habitué à ne plus ressentir le goût des aliments. Et on m'a raconté, alors je ne sais pas qui c'est, je crois que c'est vous qui connaissez Jojo Savag. D'accord? Un de ses enfants, il m'a dit qu'une fois, il était en cours de Rav Asimov, de Tania. Et le Rav Asimov, il leur a dit que, voilà, faire attention de pas trop avoir la tête dans les aliments, etc. Et lui, depuis, il a pris sur lui de plus saler les aliments. Alors écoutez bien, c'est pas qu'il mange non salé. D'accord, Jojo. C'est son fils qui nous a raconté. Mais il rajoute pas de sel. C'est-à-dire si sa femme est lucide, bon, ça rajoute du sel. Mais s'il manque du sel, il dit rien. Et ça, c'est sa manière de faire ce qu'on appelle, ce qu'on verra plus tard dans Tania, Itkafia. Itkafia, c'est-à-dire se retenir. Bon, il manque un peu de sel, qu'est-ce qu'il y a? Il va rien se passer. Hein, il sent qu'il manque du sel, mais il se retient. Bon, ça, c'est un niveau qu'on va pas rentrer dedans. En tout cas, ce que je vous montrerai par ici, c'est quoi?
Il faut faire ça, j'aime jamais,
ce que je vais rentrer, ce que je vais expliquer par là, c'est quoi? C'est que, à moins d'être un tzaddik de l'envergure de Rabbeinu HaKadosh, de Rabbi Yehuda HaNassi, qui avait l'opulence, avait les grands plats, avait la haute gastronomie, mais bien qu'il avait tout ça, il le faisait pas, il le faisait pas pour son plaisir, il le faisait les shemshamaim, jusqu'à qu'il ne ressentait même pas le goût des aliments. Si on fait partie des 99,9999% des gens du monde qui ne sont pas comme ça, eh ben, probablement qu'après 120 ans, on devra passer un petit coup de karcher. Et moins on a fait par plaisir, et moins on aura de karcher.
Oui. Dieu, il a fait ses bonnes choses.
Dieu, tout ce que Dieu a créé dans le monde, c'est pour le servir. Pas pour que moi je kiffe. Pour que je le fasse kiffer à lui. Mais c'est dur à accepter parce que dans la.
Oui, mais quelque part, si je suis. Si je trouve du plaisir, même à ça, je remercie Dieu parce que pour le bon Dieu, quelque chose.
Très bien. Très bien. C'est pour ça que j'ai amené l'exemple. C'est pour ça que j'ai amené l'exemple de gloutonnerie. C'est pour ça que j'ai amené l'exemple. Vous entendez la question de Yves? Yves, il dit. D'accord, je vais résumer un peu les questions qu'il y avait de ce côté. Du côté est, d'accord, côté sud.
La droite,
la gauche. Attention à la droite, hein. Ça monte, ça a pris des points à la droite.
Alors, c'est la ouest, c'est la est.
La renaissance de la droite.
Alors attention, l'extrême droite là-bas. Alors.
Le PS, il fait
droite. Alors, donc la posée qui répète la question, Yves, pour que tout le monde.
Non, simplement, comme il disait, c'est David qui disait simplement, mais s'il y a toutes ces bonnes choses, qu'on les apprécie, quelque part, c'est pas un mal, même d'apprécier la chose pour dire, pour verser Dieu, d'avoir fait des bonnes choses.
Bah oui.
C'est pour ça que j'ai parlé ici, je me suis arrêté principalement sur le problème de la gloutonnerie. Ça veut dire, à un moment, oublier à Kadosh Baruch Hu. Il y a des gens, vous savez, quand ils ont faim, ils connaissent personne. Ils connaissent personne, ils connaissent son plat, et connaissent, il faut le plat. Alors, il est où? D'accord.
Il dit raconter que l'autre fois il était invité à un mariage, une bar mitzvah, il ne sait même plus. Il a dit à sa femme, vite, vite, on va être en retard pour le buffet. Pour le buffet. Ils ont corrigé, ils ont été là-bas, il n'y avait pas de buffet.
Il y avait une armoire à la place.
Okay.
Pour une bar mitzvah, il y avait
bon, maintenant on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va rentrer dans le même registre, mais à Botaï. La semaine prochaine, là maintenant on a parlé des aliments. Donc pour résumer, on a parlé qu'il y a les aliments cachers, les aliments non cachers, les aliments bloqués, les aliments déverrouillés, qui peuvent monter après une bonne étude, mais ça laisse des traces. La semaine prochaine, on va expliquer la même chose, mais pour les paroles. Rabotaï, on t'est dissipé aujourd'hui. Hein. La semaine prochaine, j'espère plus de discipline. Alors, la semaine prochaine, on va parler non pas de la nourriture, mais des paroles. La même chose qu'on a expliqué par rapport à la nourriture, on va parler des paroles. Les bonnes paroles, les mauvaises paroles, les paroles vaines, les paroles futiles, le lashon hara. Qu'en vérité, la même chose qu'on a par rapport aux aliments, on va développer exactement la même chose par rapport aux paroles. Et c'est complètement dans notre registre. D'accord? Ça, c'est encore autre chose. Bezrat Hashem.
Une note, là, que tu voyais,
vas-y.
Numéro 7.
Vas-y. Bah, lui, là, non?
Ah, là. Alors, là, on dit, dans page 125, dans l'un de ses discours, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, de Lubavitch dit que le fait de réciter de mémoire des mots de la Torah viennent du Pentateuch, du Mishnah, voilà, de la Mishnah, des psaumes ou du Tania, en marchant au dehors, préserve du châtiment, de creux, de la fronde. Sans compter la valeur intrinsèque de l'étude de la Torah.
Oui, alors,
et de la purification de
l'air, ce qui ramène ici, c'est un autre commentaire du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, qui disait qu'une autre technique pour nous sauver de cette fameuse punition, c'est de réfléchir, de répéter dans sa tête, mentalement, des mots de Chumash, des mots de Mishnah, ou même des idées. Quand on marche dans la rue, ça peut être une technique aussi pour nous aider. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Où c'est qu'on est pollué? On est pollué dans la rue. Et quand tu contre-pollues par des paroles de Torah, donc tu remplis l'espace, et donc tu as déjà préparé le terrain pour après 120 ans, que quand après 120 ans tu arrives, on dit, bon, celui-là, avec les paroles de Torah qu'il a fait, il a déjà nettoyé pas mal. Parce que chaque fois qu'on pense à un mot de Torah, quand on est dans le métro, quand on est dans la voiture, etc., quand tu es dans la voiture, dans un embouteillage, tu écoutes un Dvar Torah, tu écoutes un cours de Torah, tu purifies l'espace.
C'est ce qu'on dit tout à l'heure,
on a parlé des 4 heures.
Ça peut rentrer dans les 4 heures.
Ça peut, bien sûr. Voilà, on s'arrête là.